Des années après avoir voûté les vilains hommes de Pandora, Neytiri et Jake, la Pocahontas et le John Smith du premier film, vivent en harmonie dans leur forêt sauvage de Pandora. N'ayant pas à leur disposition de moyens de contraception efficaces, les voilà père et mère de plusieurs petits métis avatars Navi. Et parmi eux, une mini Sigourney Weaver, elle qui était censée être décédée dans le 1 à cause d'une mauvaise connexion Wi-Fi à Ewa. Bizarre, non ? Enfin bref, ensemble, ils vivent leur rêve bleu et tout va pour le mieux. Mais voilà, un jour, les méchants terriens capitalistes reviennent sur Pandora pour tout salir, tout piller, tout détruire. À la suite de cette seconde invasion, c'en est trop pour Neytiri. La belle bleue va alors voir rouge et péter un boulon, ce qui la mènera, dans un ultime acte courageux mais irresponsable, à trouver la mort. Puis les hommes brûleront encore leur forêt et obligeront la famille orpheline à fuir vers un biome moins inflammable, plus humide. Les voilà alors réfugiés chez leurs voisins, les bleus turquoises au tatouage maori, qui habitent les plages pandoriennes. De la flotte à perte de vue. Et un jour, la mini Sigourney Weaver, sans doute la seule équipée de la fibre 5G, recevra un appel provenant de sa mère. Elle n'est pas morte, elle est là, réincarnée en baleine, et lui demandera de suivre la voie de l'eau pour la ramener. Mais les vilains américains capitalistes ne sont jamais très loin. Armés de méca Terminator, ils continueront de mettre des bâtons dans les roues de nos héros, et le chemin pour se reconnecter à la mer par la mer ne sera pas des plus faciles. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après s'être fait des films avec la BA du dernier James Cameron dans l'épisode 102. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Nos navis !
Ah non !
Oh mon dieu, j'ai honte. Et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Avatar, la voix de l'eau. DJ,
ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Avatar, la voix de l'eau, de James Cameron. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa BA, sont avec moi autour de la table pour revenir en Navi. Bon, ok, ça marche une fois seulement. Sur ce film, ma team d'experts en langue Navi, pour le coup ça marche. Kaltsi, ça veut dire bonjour, hein, je le rappelle. Kaltsi. Kevin est là.
Kaltsi, Rusmix, Nusnam.
Là, c'était pas du Navi.
C'était du russe.
C'était du russe polonais, ukrainien. Ah. On sait pas trop de quel pays tu t'es perdu. Oel Natikameye, Matsmukan. Je te vois, mon frère.
Yeah.
Je le répète. Clémence aussi est là. Kaltsi, Clémence.
Yeah, naturlich.
Ouais, Natikameye, Matsmuke. Je te vois, ma sœur. Enfin, bref, vous avez compris, on va pas la refaire. Erwan est là. Kaltsi, Erwan.
Kaltsi, Romain. Kaltsi. Kalissi.
Non, pas le même univers, là, attention. Et William aussi est là.
Bah, Kaltsi.
Kaltsi,
calcification.
Natikameye, nanan, je te vois, nanan.
Kalissi.
Mais couille, ça fait un dindon, ok, etc. Blablabla. 100% spoiler, voilà, allez hop, on rentre dans le tas direct, évidemment, on va vous parler d'Avatar, le phénomène interplanétaire, ce film-là de fin d'année qui a réussi à quand même battre tous les records avec juste quelques semaines d'exploitation, à arriver déjà dans le top 10 hein, de tous les films qui ont tout cassé au box-office depuis la nuit des temps. Avatar 2, la voix de l'eau, on va en parler tout de suite, peut-être un match retour un peu plus complet que les autres, je ne sais pas, écoutez, on verra, pour l'instant je me laisse guider par le fil de l'eau, justement. Notre histoire imaginée, c'était bien beau, mais c'était pas ça.
Non.
Elle était belle, notre histoire.
Elle était pas mal, hein.
Elle était pas mal, ouais.
Ça coulait de source, elle était limpide.
Ouais. Bon, on aurait aimé voir ça, malheureusement, ce n'est pas ça. Il y avait un tout autre scénario derrière ce film, et pour vous le résumer, vous le savez, c'est le hasard qui détermine qui, aujourd'hui, va être responsable de cette tâche. C'est la roue de la chance.
D'habitude, je suis pas stressé, mais là, j'ai pas envie de le faire, pour le coup.
Allez, le hasard, la
roue de la chance.
Et ça n'a rien à mais c'est pas possible, je suis maudit.
Romain
Yes. Il y a au moins 75% des fois, c'est moi, quoi. Bon, on le fait ensemble.
Tu fais exprès.
Eh, bien tenté, Romain, bien tenté. Hein.
Si tu te trompes, on te critique, mais on te donne pas la bonne réponse.
Ah là. Écoutez,
je vais t'aider.
Ok, je vais reprendre directement.
Deux fois.
Ça va, il dure que 3 heures, allez.
C'est vrai, je l'ai vu deux fois en plus, mais comme quoi, j'ai pas bien imprégné. C'est même pas ça le problème, c'est que j'ai du mal à remettre des mots dans le bon sens.
D'accord. Commence par le sujet.
Le sujet, Avatar, James Cameron, des hommes bleus et des femmes bleues qui vivent dans la forêt. Voilà, ok, c'est ça la fin. La fin du 1, on reprend directement.
Non, ça, c'est les Schtroumpfs, ça.
Aussi, ça marche. Mais non, là, pour le coup, nous retournons à Pandora après que les humains aient été virés hein, de Pandora.
Hors de nos terres.
Boutés, évidemment, parce que vous avez vu dans le 1 que c'était pas des gentilles personnes pour la plupart. Ils ont quand même trié, hein, ils ont gardé les meilleurs, hein, c'est-à-dire les scientifiques, quoi, les copains du premier. Ils sont restés avec eux, la vie a continué. Hein, plus
ils ont laissé un bébé, quand même. Ils ont laissé un bébé sur place.
Oui, ça, je vais y arriver, mais c'est vrai qu'ils ont... Voilà, ils sont partis. Donc, tout va bien, on peut continuer à vivre sa vie. Jack Sully, le héros du premier, est de retour, évidemment. Il est devenu lui-même un Navi. Hein. C'est devenu même le chef Navi, hein, comme on a pu le voir dans le premier. Et donc, il vit sa vie avec Neytiri, sa plus belle vie. Il va pondre des marmots à la pelle. Il y en a pas mal.
C'est un petit Navi. Pardon.
Mais coupez-lui son
très
micro.
Inspiré. Hein. Très inspiré.
Surtout
par
que moi, je me lance comme ça et on me coupe.
Excuse.
Un petit Navi. Voilà, il était un petit Navi dans la forêt de Pandora qui vivait sa meilleure vie.
5 pour le coup. 4.
Quoi ?
Combien de gamins ?
Combien de gamins ? Alors, il y a le premier, j'ai oublié son nom.
À 3.
Loak. Loklak, il a un nom de Loklak.
Non, ça, c'est le troisième, ça. Ça, ah, c'est Malcolm in the Middle, lui, là.
Ah non, le premier, il s'appelle... c'est pas Marvin ou un truc...
Neteyam.
Marvin.
Neteyam, je crois. Oui. Neteyam, qui est... Voilà, c'est Francis.
C'est l'aîné, c'est le meilleur.
Malcolm
c'est...
dans ma tête. Ouais.
C'est l'aîné.
Après, on a Loak, je crois. Loak.
Après, non. Après, on a la Vierge Marie, là.
Ah oui. Ouais, mais c'est pas vraiment son enfant.
Elle s'appelle Kiri, elle a un nom de fromage elle aussi.
Si c'est leur enfant, adopté ou pas, c'est leur enfant.
Oui, c'est leur enfant.
William.
Oui,
enfin.
William.
Enfin, ils l'ont élevé, William.
Vous n'allez pas en faire tout un fromage.
Kiri.
Kiri qui s'appelle. Qu'elle s'appelle.
On va pas s'étaler sur le sujet quand même.
Arrêtez. Je vous en conjure, j'en peux plus.
Voilà, en fait, l'avatar de Grace, c'est-à-dire l'avatar de Sigourney Weaver, la scientifique qui est décédée hein, dans le premier, en fait. Elle, son corps humain est mort, mais apparemment son avatar a survécu, je ne sais pas comment. Bref, ils l'ont mis en capsule, elle est branchée à des tuyaux, et par l'opération du Saint-Esprit, bim, un jour, gros ventre. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Elle serait pas enceinte ? Eh ben si, elle est enceinte, what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Alors qui a mis la graine ? Qui ?
Kiri.
Oh la vache !
Donc voilà, ça fait la deuxième, Kiri.
La vache Kiri.
La gamine Kiri. Attends, je suis encore à dire les gosses, hein. On parle d'un film de 3 heures. Restez avec nous, on est encore là.
Ça, c'est sympa.
Vous êtes bien dissipé, Kevin, aujourd'hui, dis donc.
Ensuite, il y a Loak, là, le fameux
le
plat coréen. Là.
Non, c'est vietnamien.
Vietnamien.
Chez toi.
Oh, bah oui.
Putain,
tu connais bien.
Ensuite, il y en a un plus jeune.
Ensuite, on a la toute petite.
Oui, bébé, ouais.
Que
ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le. Bah, elle sort pas grand chose.
Oui, elle est...
ça sert à rien.
Si, elle fout la merde parce qu'elle se perd ou je sais plus quoi.
Ouais,
c'est la petite.
Ouais,
elle a pas beaucoup de sens de l'orientation. Quoi.
La petite. Ouais, donc deux filles, voilà, deux filles et, et deux garçons.
Et un futur
parité.
Bébé.
Et un mec, ouais, qu'on introduit comme ça qui est le Tarzan de la bande. En fait.
Ah, t'en as oublié une
Ah oui,
elle est enceinte.
Elle est enceinte.
Ah
bah oui, elle est enceinte pendant tout le film.
Mais non.
Mais n'importe quoi.
Mais non, c'est elle est enceinte en flashback de la dernière.
Ah non, c'est la femme du chef de l'eau.
Oui.
C'est
Kate. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah lui, il confond les bleus.
Ah ouais, il confond les navis.
Les bleus.
Bah, confond les bleus.
C'est vachement raciste, ouais.
Super raciste.
Ah, mais ils ont tous la même gueule, ça que t'es en train de dire ?
Bah, il y en a, ils sont un peu plus
turquoise. Enfin, je veux dire, ils se ressemblent, quoi. Bon.
Enfin bon bref, où est-ce que j'en étais là ? J'ai présenté la famille.
Oui, il reste un petit adopté Tarzan là.
Voilà, on apprend que le méchant là du premier Quaritch avait lui aussi planté sa graine. On ne sait pas dans qui, mais en tout cas, il y a eu un gosse qui était là et qui peuvent pas renvoyer sur Terre parce que il peut pas supporter
trop jeune pour la cryogénisation.
Ouais. Bon, ouais. Ça on en reparlera, mais bon, voilà, belle subtilité de scénario encore une fois pour introduire un personnage qui voilà qui sera certainement utile par la suite. Genre je tease mon scénario. Ah oui, 100% spoiler, j'ai dit oui, c'est juste.
Attends, ça fait combien de temps ? 10 minutes.
Okay. En gros, ça fait 15 ans que les humains sont partis, tout se passe plutôt bien et ils décident de revenir.
Et voilà, en fait, les humains reviennent, refoutent le sbeul parce qu'il y a encore des choses à récupérer sur cette planète qui pourraient leur servir. Et cette fois-ci, on apprend que en fait, c'est pour sauver la planète Terre. Tu vois, c'est vraiment la planète Terre est en train de crever. Donc, s'il y a moyen de venir trouver les rustines sur Pandora, on va les prendre quand même, quitte à péter du Navi.
Parce qu'il n'y a plus de Nutella, il n'y a plus d'huile de palme. Du coup, il faut aller le chercher quelque part.
C'est la merde.
Il n'y a plus de PQ. Il n'y a plus de pâtes.
C'est le Covid, ça.
Et voilà. Et donc, les humains reviennent. Il se passe quand même un petit moment. Il y a une petite ellipse de un an, je crois, à ce moment-là. En gros, les humains se sont réinstallés, ont recolonisé certains endroits sur Pandora. Et on apprend que l'opération Avatar, qui au départ n'était que scientifique, au final, a aussi servi à créer des clones de tous ces méchants archétypaux qu'on a pu voir dans le premier, c'est-à-dire Quaritch et sa bande. Ils sont de retour, mais cette fois-ci en grand bleu. Mais comment ça se fait? Vous me direz. Eh ben, c'est facile. On leur a mis dans le troufion une petite clé USB qui
stocké leur mémoire.
Voilà,
quoi.
Qui comportait la conscience de Quaritch et compagnie. Alors ça aussi, belle subtilité de scénario pour pouvoir redonner des motivations à tous ces bons gros méchants.
En vrai, c'est un peu comme dans Space Jam quand les petits méchants aliens ils deviennent grands basketteurs.
J'ai non, pas.
Mais c'est... Ouais, si.
C'est pas la référence.
Mais si, j'ai la rêve, mais... Ils leur volent leur talent.
C'est ça.
Ah ouais, ouais, bah là,
après,
il
nul.
Là, du coup, voilà, on met dans les avatars la conscience de Quaritch. Et Quaritch n'a qu'un objectif, apparemment.
C'est de se venger.
C'est de se venger de Jake Sully, le grand chef rebelle qui a fait foirer l'opération 13 ans plus tôt, 15 ans plus tôt. Enfin, bref, au premier avatar, quoi. Tout le film va se construire sur ça, évidemment, et ils vont attaquer de plein fouet. Et forcément, Jake, voyant que sa famille est très en danger à cause de ses actions, va décider de les mettre à l'abri. Et pour cela, il faut partir loin, très loin. Donc, tout le monde sur son ptérodactyle, et oui, ça trace. Et ça part sur les côtes, et ça va trouver ses navis maoris.
Ça va bronzer, ouais, ça va bronzer sur les plages.
Voilà, quelques jours de voyage, et puis bam, ça arrive sur des plages magnifiques. Ouais,
c'est
fantastiques.
Polynésie française.
Voilà, on est à Tahiti, hein, clairement, bien sûr. Et ils trouvent ces Maoris, là, Navi, qui sont pas pareils qu'eux, hein, qui ont des membres un peu plus adaptés pour nager, une queue aussi adaptée pour nager, parce qu'ils vivent évidemment avec l'eau autour d'eux, donc parfois aussi dans l'eau. Voilà, ils ont une capacité d'apnée excellente. Pourquoi tu rigoles, toi?
Je t'ai dit que. C'est ça?
Non.
Quoi, tu te moques?
Non, rien, écoute.
Parce que c'est long, c'est ça. Mais bon, c'est pas de tout repos parce qu'évidemment, ils vont se faire retrouver et ainsi soit-il. Des voilà, sens. Et puis après, c'est ça.
Alors là, juste, est-ce que tu veux placer la baleine?
Ah, oui,
et le lien de Kiri à la planète.
Il y a les Tulkun, voilà. Là. Je crois qu'ils s'appellent les Kultun ou les Tulkun.
Tulkun, je crois.
Les Kakul.
Les Tulkun,
les Coca-Cola,
Tulkun, bref les baleines,
on va les appeler les
baleines,
les baleines aussi qui ont des tatouages,
les tuk-tuk, ça leur permet de se déplacer,
je sais pas qui a tatoué.
Ah non, ça c'est les dauphins volants.
On s'en balèque. Voilà, il y a des poissons volants,
il y a des grosses baleines, il y a des grosses baleines
qui sont, voilà, c'est des copains,
une histoire de symbiose entre
les correspondants,
un qui est un traître.
Qui est paria.
Mais non, c'est pas un traître.
Il est paria, et c'est vrai qu'il
a pété un boulon. Il a pété un boulon.
Voilà,
pété un
et puis il y en a un qui est le plus éloigné du groupe, là, le Malcolm in the Middle, là, Loak, là, qui lui un peu, se sent un peu plus rejeté par son père. Parce que son père, c'est vrai que Jake, il a une éducation
très militaire.
C'est un
gros con, on peut le dire.
Quoi.
Hein,
c'est un mauvais père.
C'est
un grand bon père. Hein.
C'est quoi, le fils rebelle. C'est le fils rebelle.
Un bon père.
Un bon père, c'est pas ce que j'ai vu.
Mais bon, voilà, il va y avoir aussi, évidemment, beaucoup d'aventures, beaucoup de découvertes des fonds marins. Donc, évidemment, une présentation de Cameron qui creuse encore un peu plus sa planète et tout son univers. Et c'est magnifique, certes, mais voilà, qu'est-ce que ça raconte?
Bon, j'ai l'impression qu'on est déjà à la vie de Romain.
Non, mais après, il y a bataille.
Dérivé,
Quaritch, il a toujours pas digéré, il continue de pourchasser Sully.
Et
puis...
il utilise surtout son fils Spider comme guide.
Oui.
Pour
Oui, Spider est son fils.
Enfin bref, tout le monde a vu le film, pourquoi on le résume, hein? Je ne sais pas.
C'est vrai.
Peut-être parce que
le gamin il s'appelle Spider, ouais.
Tarzan.
Parce qu'il ressemble
à
une
araignée, Tarzan, c'est plus simple.
Je sais pas pourquoi il l'appelle Spider, c'est pas un prénom.
Bah non.
Bah de toute façon, Quaritch, est-ce
une
que c'est un prénom?
Une araignée de mer.
Bah non, c'est un nom de famille.
Ouais, mais oui. Il s'appelle comment? C'est Jean-Claude, ouais, Jean-Claude Quaritch.
C'est Jean-Claude Quaritch.
Bref, tout le monde connaît l'histoire et que je pense en merde. Donc voilà, c'est ça l'histoire.
La prochaine fois que je dois résumer.
C'est ça l'histoire. Et puis après, il y a bataille sur les eaux, les baleines un peu mis au centre.
Titanic, et puis c'est fini.
Voilà, et puis l'aspect écologique. Et puis malheureusement, Francis.
C'est notre jukebox.
Francis meurt. Oui.
Francis meurt à la fin.
Ouais. C'est vrai que Francis meurt. Il reste que Loclac et Kiri, que de la bouffe.
Il reste plus que ça, il reste plus que Loclac, qui est notre autre que Malcolm, et Kiri.
Dewey. Qui dépasse Malcolm. Où est-ce que tu vas?
Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire des comparaisons avec
Loïs,
Malcolm
c'est la
merde. Middle, moi j'ai un problème.
Rien à voir.
Bon, bref, ce film douille ou pas douille, là, allez, ça commence à m'énerver.
Zéro effort.
On va comparer la BA, nous qu'on s'était fait la première BA du film, parce que vous le savez, je suis parti au Vietnam entre temps, on n'a pas pu faire la dernière BA qui ont montré beaucoup plus, et au final, tant mieux, parce que ça nous a permis aussi de plus s'imaginer des choses. Est-ce que cette BA nous a vendu un bon film? Est-ce que ce film était bon? Est-ce que cette BA n'était pas mensongère? Est-ce que cette BA n'était pas une douille? Est-ce que le film n'était pas une douille? Bref, en gros,
douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Bon, j'espère que j'ai été clair sur l'histoire.
Pas vraiment, mais c'est pas grave.
Pas vraiment, mais on va essayer de rattraper le coup.
Bref, les bleus contre les humains, vous avez compris, c'est la même chose que le premier film. Allez.
Les grands contre les petits.
Alors, douille ou pas douille, Clémence?
Pas douille. Parce que, bah, en fait, ça correspond bien à la bande-annonce, je trouve, même à ce qu'on avait étudié qui n'était pas la dernière bande-annonce. Il y avait plein de choses un peu mystérieuses, on s'était un peu fait des films, on était parti à la dérive, mais en vérité, dans l'essence même de la chose, le film, il correspond aux images qu'on y voyait, il correspond à cette impression que ça allait être peut-être un peu répétitif avec le premier, en effet, voilà. Donc, j'attendais d'aller voir le truc pour ses prouesses techniques et tout. C'était plus ça, mes attentes par rapport à la BA. Et c'est ça que j'ai eu en voyant le film. Voilà.
Ok, Arwan, même question. Douille ou pas douille ?
C'est à peu de choses près, là, même avec Clémence. Mais je dirais que c'est une pas douille un peu négative. Parce que, étant moins attaché à la partie technique, du coup, bah, en fait, les bandes-annonces me laissaient penser que ça allait être un à peu près le même scénario qu'Avatar mais dans l'eau et j'ai eu à peu près le même scénario qu'Avatar mais dans l'eau
donc
donc pas douille mais un peu déçu ouais.
William, douille ou pas douille ?
Eh bah, je dirais plutôt pas douille positif de mon côté. J'ai eu le film que je m'attendais à voir en termes d'image et plutôt positif puisque il avait quand même beaucoup d'écueils à surpasser, le Cameron, après 13 ans d'attente. Tout le monde l'attendait au tournant et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien.
Ah bah là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein.
Ouais, je parle pas forcément en termes de chiffres, je parle même en termes de narration et de visuel. Quand les gens sont très impatients, ils ont tendance à être très tatillons et je trouve qu'il a réussi à leur clouer un peu le bec à ce niveau-là.
Kevin, douille ou pas douille ?
Bah moi, pas douille, j'ai eu le film auquel je m'attendais. En plus, rappelez-vous que Avatar, le premier du nom, je l'avais découvert en point AVI 480p. Donc là, j'ai eu ma petite claque technique cinématographique.
Enfin.
J'étais très content. J'étais, ah oui, ça a quand même de la gueule. Après, bon, je reviendrai dans la vie, mais je pense que ce film a quand même les mêmes défauts que le premier, qui ne sont pas des défauts dramatiques. Mais bon, ça vaut toujours le coup qu'on en parle, quoi.
Et toi, Romain ? Oh, je t'ai pris de court. T'as l'air un peu surpris.
Ah, mais là, j'ai l'impression que c'est l'épisode où je suis pris de court. Non, douille et pas douille en fait. Je suis mitigé.
Midouille.
Ouais, midouille. Midouillé. Parce que c'est vrai que le film, évidemment, la bande-annonce, pardon, évidemment, vendait quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est le cas. C'est vraiment. Là, on a 10 ans d'avance sur ce qui a pu se faire. C'est sur ce qui peut se faire aujourd'hui en termes d'effets, d'images numériques et de tout ce qui est invention liée à ce film-là. Enfin bon, bref, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est une claque technique, une prouesse technique qui décoiffe. Par contre, voilà, on s'en doutait un peu en se faisant la BA, mais je suis désolé, il y a beaucoup trop de ressucés, de réchauffés du premier. Il y a beaucoup trop de personnages trop archétypaux. Il y a beaucoup trop de manichéisme qui malheureusement me laisse un petit goût amer en bouche. Car si il y avait
yodé en
yodé, voilà, j'ai un peu bu la tasse sur certains passages, même s'il y a quand même des passages clairement de mise en scène qui sont absolument incroyables. Mmh. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans les détails. Qui est prêt à ouvrir le bal ?
Alors,
n'explorez peut-être pas la technique d'abord. Comme ça, on se débarrasse de ça et puis ensuite, on peut parler plus clairement du scénar.
Et pour me débarrasser de mon avis sur le sujet dont on va se débarrasser, n'étant pas très technique, c'est que tu disais en fait qu'on a 10 ans d'avance, là, clairement, techniquement, on est 10 ans en avance sur ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ça serait bien aussi que, là, du coup,
Switch fasse pareil, c'est ça ?
Qu'en fait, on ait les outils pour suivre cette technologie parce que pour l'avoir vu dans mon petit cinéma de campagne avec les petites lunettes 3D qu'on te servait déjà il y a 10 ans.
lunettes bleues et rouges.
Il y avait du scotch pour les retenir entre elles. Quoi.
En carton.
C'était presque des lunettes de ski, donc on était quand même un peu plus évolué.
Ça marche
clairement
pas avec tes lunettes pour les éclipses, Erwan, on te l'a déjà dit.
Là, c'est de la 3D active. Ouais.
Parce que moi, j'avais celle avec écrit Joël de Mickey. Là.
Ça marche pas.
Ah, celle qui avait le vert rouge et le vert vert.
Ah
oui, je vois.
Non, mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de cinémas qui n'étaient pas du tout prêts pour.
Il y a des salles.
Je sais pas si vous l'avez vu dans
des salles
conditions
qui ont planté. J'ai lu des articles sur quoi, comme quoi il y a des salles qui ont planté, notamment au Japon. Il y a eu pas mal de salles qui ont planté parce qu'ils n'étaient pas prêts.
Alors,
elles ont explosé, genre ?
Non, mais c'est juste que le film s'est arrêté parce que ça
le DCP a dû crasher. Ouais. Le lecteur DCP.
Ça faisait mise en mémoire tampon.
Oui, pour revenir à la technique, c'est quand même beaucoup de brevets qui ont été déposés pour ce film. Rien que ça avait été le cas pour Avatar, mais là pour le coup, Avatar 2 a encore plus mis un level au-dessus. notamment en termes de, bah, d'imagerie. Hein. Je pense à Weta, qui est Weta Digital. Weta Digital, ce sont ceux qui sont occupés de tout le Seigneur des Anneaux, qu'on a pu voir aussi chez Avengers. Enfin bref, la plupart du temps, quand vous voyez des effets, c'est souvent des effets de grands films blockbusters, c'est souvent Weta qui est derrière, hein, la boîte de comment il s'appelle,
Peter Jackson
quoi. Mmh. En gros, là Weta, ils ont mis les bouchées doubles pour ce film et ils ont beaucoup déposé de brevets pour pouvoir justement, ils ont créé énormément de choses pour pouvoir faire ce film. Je te lance William parce que c'est toi un peu la caution technique du podcast.
Bah oui, ils ont développé pas mal d'outils pour ce film, notamment ils ont un simulateur d'eau. Hein, c'est surtout ça.
C'était très important pour le coup.
Ouais, pour le coup, qui utilise en fait tout plein de nouvelles technologies, notamment là où avant tu avais une grosse capacité de calcul pour tout un ensemble d'environnements. Là, chaque environnement va avoir son calcul à lui, son interaction avec les éléments autour de lui, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus crédible à l'image. Ça demande beaucoup moins de temps de calcul, beaucoup moins de mémoire, et ça a une qualité bien supérieure. Il s'appelle Manuka, je crois. Non.
Manushka.
Manuka, c'est leur. Ah non, c'est leur. Ça, c'est leur système de rendu. En fait, ils ont développé beaucoup de logiciels, notamment des logiciels de rendu pour gagner de la place et de la puissance de calcul. Des simulateurs donc d'eau dont on parlait. Et surtout, ils ont développé une technique de captation sous-marine.
Ouais, on en parlait un peu dans la BA, la performance capture, mais sous l'eau. Mais pourquoi sous l'eau? Parce qu'ils auraient pu faire ça aussi à l'extérieur et ensuite les intégrer sous l'eau. Enfin, je veux dire, c'était facile, quoi.
C'était sûrement pour avoir une meilleure crédibilité d'un point de vue des mouvements. Alors, ils ont dû développer quand même beaucoup d'outils, notamment des piscines avec aucune réflexion de la lumière extérieure. Donc, que ça soit à l'extérieur du bassin ou même de la réflexion de l'eau elle-même sur sa propre surface. Donc, ils mettent des boules blanches à la surface de l'eau pour hermétiser finalement ce qu'on appelle un volume, hein. On tourne dans un volume en général quand on fait de la motion capture. Ils ont dû développer des nouvelles caméras. Alors, sur un volume pour de la captation, normalement on utilise des lumières infrarouges. Là, dans l'eau, ça ne fonctionne pas, ça serait absorbé par le liquide.
Il faudrait infrableu.
Et bah, c'est de la super bleue qu'ils appellent ça.
Qu'est-ce qu'il faut, Erwan?
Je sais exactement.
Il partait pour faire une blague. Et au final,
c'était pas du tout une blague. Hein,
Et donc, vous aviez parlé aussi du fait qu'ils avaient appris l'apnée. Enfin, ils avaient dû s'entraîner à l'apnée. Alors, pourquoi faire de l'apnée? Tout simplement parce que les
bulles. Pour ne pas mourir.
En fait, c'est pas ça. C'est que sinon, ils auraient dû utiliser des bouteilles d'oxygène, des bouteilles de plongée. Ça fait des bulles. Ça transforme, du coup, la texture du liquide. Et ça aurait été une interférence pour la captation.
Puis ça t'alourdit aussi, peut-être, pour les gestes.
Après, il faut parler de la grande révolution de ce film. Vous en aviez parlé un petit peu, c'est la HFR. En l'occurrence, là, c'est plutôt de la VFR, puisque c'est une HFR qui va être variable tout au long du film. On passe de 48 à 24.
Alors, 48, c'est pour les phases d'action, en gros.
Exactement. C'est
peut-être préciser ce que c'est HFR et 24, alors, 48, image.
HFR, high frame rate. En gros, on a l'habitude de connaître. Nous, on voit à 24 images secondes, en gros. On voit même
en dessous, hein, la pertinence. Perception rétinienne, c'est plutôt 12 images secondes. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait en animation au tout début et ça marchait très bien.
Et ça, voilà, depuis que le cinéma est en gros inscrit comme un art, entre guillemets, qu'il est rentré dans les mœurs, c'est du 24 images secondes, quoi. Et ensuite, on passe à 48, voire même plus, 60, 120, ça dépend. Mais en gros, pour ce film, c'est du 48 images secondes pour les phases d'action, ce qui permet d'avoir plus de détails dans l'action, plus de fluidité et moins de flou.
Ça permet de réduire le flou de mouvement et ça permet aussi, quand tu es en 3D, où tu vas superposer deux images et avec de la profondeur, de limiter le flou de mouvement qui est très désagréable en 3D. Moi, par exemple, j'ai toujours détesté les films en 3D, notamment parce que dans les scènes d'action, je vois, il n'y a rien. Tout me paraissait flou.
Ouais, bah alors moi, c'est un truc qui m'a dérangé, tu vois.
Ouais,
parce que j'ai le souvenir très précis d'une scène d'action où Jack se bat contre le méchant, là, Jean-Claude.
Jean-Claude Quaritch.
Quaritch, voilà. Et où en fait vraiment on a tous les mouvements qui sont décomposés parce qu'ils font la moitié des prises de judo, enfin des arts martiaux que
c'est
je ne pratique pas. Judo
brésilien.
Je n'avais pas remarqué. Voilà. mais très clairement, donc c'est toute une chorégraphie. Et en fait, cette chorégraphie pour moi ne marche pas parce que justement il n'y a pas de flou de mouvement et du coup on avait vraiment l'impression de voir, on en parlait avec Romain. Hors micro, mais on a l'impression de voir plus un teaser de jeu vidéo que un.
Ouais, ça donne ça fait un effet désagréable pour l'œil où on a l'impression que c'est saccadé, ce qui fait penser aussi à certaines cinématiques de jeux vidéo parce que le jeu vidéo ça fait déjà un petit moment déjà que c'est un peu
qui sont 60 FPS, hein,
ouais. qui soit
120
passé
sur PC,
chez FR. Donc voilà, sauf que le jeu vidéo, lui, est entièrement en, dans cette case d'image-là. Alors,
tu as une distance surtout au jeu vidéo qui n'est pas la même.
Et là, le fait de passer de 24 à 48, il y a un petit saut parfois qui se crée parce que tu sais que tu vas passer dans l'action et tout d'un coup, tu fais j'ai une espèce d'uncanny valley sur l'action là, qui est bizarre.
En fait, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que comme on est sur une HFR variable, l'œil doit à chaque fois se réhabituer quand on a changé de cadence. C'est vrai que t'es à 24, tout d'un coup tu passes à 48, ton œil il a besoin de quelques secondes pour se réhabituer. Et inversement, c'est d'autant plus flagrant dans l'autre sens quand tu passes de 48 à 24.
Bah moi je préfère 24 quand même, personnellement.
Et en plus quand tu portes des lunettes journal de Mickey, enfin vraiment c'est
ça. Surtout qu'il y a un truc, c'est que le 24 images par seconde est une perception plus naturelle. C'est pour ça que dans les jeux vidéo par exemple, les jeux vidéo où il y a beaucoup de narration, les cinématiques sont souvent en 24 fps, alors que le jeu peut être en 60-120. Mais pour toutes les parties, donc on va dire cinématographiques des jeux vidéo, souvent, c'est le cas de Last of Us par exemple, il repasse en 24 pour que tu puisses te projeter et avoir ce sentiment justement cinéma. Quoi.
Et on en arrive au deuxième point, il y a aussi une question d'habitude. Le cinéma, ça a 100 ans, ça fait 100 ans qu'on regarde des films à 24 images secondes. Il faut nous habituer à ce que ce médium puisse potentiellement évoluer et recevoir beaucoup plus d'images par seconde. Alors c'est vrai que dans une scène d'action, la 48 images seconde est justifiée pour permettre une meilleure lisibilité. Dans un champ contre champ où les personnages ne bougent pas, 24 images, c'est vrai que c'est largement suffisant. Mais bon, on aurait pu se dire, s'il avait fait tout le film en HFR, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu repasses en 24 images seconde, peut-être que ça serait mieux passé, parce que ton œil s'habitue un petit peu au début, il lui faut 5-6 minutes pour se dire « Ok, j'accepte cette nouvelle cadence d'image », puis après ça ne te gêne plus. Mais là, comme on n'arrêtait pas de changer de l'un à l'autre, en effet, tu peux avoir ce petit temps d'adaptation qui revient à chaque fois et qui te sort un petit peu du film. Parce
et
que
pourquoi il a changé ? Pourquoi il n'a pas tout
Alors,
fait en...
Il peut y avoir plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que comme la très très grosse majorité du film, voire même l'entièreté du film, est en image de synthèse, et bah, c'est pas 3000 plans qu'il faut que tu,
oui,
que
tu, multiplies,
que tu animes. Il faut multiplier par deux. Donc c'est vrai que ne pas animer des scènes de dialogue à 48 images secondes, ça te permet d'économiser un petit peu d'argent et un petit peu de temps, sachant que, et c'est là où pour moi, il y a une légère erreur dans ce que tu as dit par rapport à l'avancée technologique du film. Le film, il n'a pas 10 ans d'avance. C'est juste qu'il y a une technologie qui existe et il a pris le temps de l'utiliser au maximum. Parce que Marvel, par exemple, je suis désolé, je vais encore taper dessus, mais ils utilisent aussi Weta Digital. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont 7 mois de post-production pour doubler le même nombre de plans. Et pendant ces 7 mois de post-production, ils vont changer 10 fois de direction artistique, ce qui fait qu'au final, on a des opérateurs, des techniciens de VFX.
Oui, ça reste classique dans tout ce qui est mis en scène, mais les productions, c'est pas pensé. Ils n'ont pas déposé des brevets à chaque film Marvel.
Ils utilisent aussi ces outils-là. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas le temps de travailler. Là, il faut savoir que la post-production VFX d'Avatar, c'est 7 ans. Ils ont mis 7 ans pour finaliser leur plan, pour les rendus, pour faire en sorte que le moindre détail fonctionne. Ils ont développé des brevets, en effet, pour ça aussi, en se disant, ce qu'on veut, c'est que ça soit crédible.
Alors après,
ça change tout.
Pour la défense de Marvel, c'est pas directement pour eux, mais tout le monde ne peut pas avoir le luxe d'attendre 7 ans pour sortir une suite.
Ah bah ça, bah, n'est pas
là, pour
James
coup,
Cameron,
James Cameron sur Avatar, il avait...
C'est pas la logique, c'est sûr. Mais
au final, en imaginant même qu'on se dise, tout le monde n'a pas le luxe d'attendre, on pourrait même ne serait-ce que d'en parler d'un point de vue des chiffres. Bon, pour atteindre plus de 2 milliards de recettes. C'est-à-dire que les films Marvel, pour réussir à atteindre ce même nombre de recettes, ils ont dû sortir quoi, 10, 15 films. Au final, est-ce qu'ils auraient pas dû se dire, on sort qu'un film tous les 7 ans, et on le sort bien et il fait autant de recettes qu'un... Moi, je pense que d'un point de vue économique, finalement, James Cameron, il est bien plus satisfait de ses résultats qu'un Marvel qui va sortir 40, 30 films en 10 ans pour quasiment une même réception. Tu vois.
Ok, bon, on a posé la technique, voilà. Ça,
petit taquet à Marvel en plus gratos, ça fait plaisir toujours.
On a l'habitude maintenant, depuis la merde de No Way Home, ça envoie sec ici à Fetabia. Mais en tout cas, la technique elle est posée, voilà, en tout cas c'est un tournant, encore une fois comme l'a été Avatar il y a 13 ans, Avatar 2 a encore remis très haut la barre pour ce qui est technique, et pour le coup on n'est pas déçu. Enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi je n'ai pas été déçu de ce côté-là, ça reste quand même hallucinant.
C'est magnifique, ouais,
quand tu vois les textures, quand tu vois la manière dont l'eau est traitée, comment elle agit sur les éléments, c'est ouf. L'eau sur la pierre, l'eau sur les vêtements, l'eau dans les cheveux, c'est les bulles d'air dans la mer, c'est incroyable.
Sachant que c'est un des éléments qui était graphiquement le plus dur à faire, parce que ça répond à des lois physiques extrêmement complexes, les bulles d'eau. Ça doit répondre en même temps à la gravité, mais au milieu dans lequel elles évoluent. Et ça, à reproduire, ça demande énormément de détails.
Et ça a dû être des temps de rendu incroyables. En tout cas, le film, voilà, juste pour dire, je pense qu'ils avaient de quoi faire, parce que c'est quand même un si ce n'est, je crois même que c'est le film qui a coûté le plus cher jusqu'à présent, 400 millions de dollars, Avatar.
De production, sans marketing du coup.
Ouais, 400 millions de balles, bam, ça c'est fait.
Mais t'imagines, c'est tu règles le problème des retraites en France avec ça presque.
Ouais, mais c'est plus de 2 milliards, c'est quoi, c'est 2,12 milliards je crois à l'heure actuelle, là, au moment où on enregistre, ou 2,2. Enfin bon, bref, en tout cas, bref, il a passé la barre des 2 milliards, il est dans le top 10 des films qui ont le plus marché au monde. Voilà, ça c'est posé. Maintenant, quid de ce scénario? Parce que c'est là où ça peut poser problème.
Avant de parler de scénario, je pense que, parce que ça va être là, je pense, à mon avis, qu'on va avoir le plus de réserves. Est-ce qu'on peut pas parler un peu de mise en scène aussi? Parce que...
Vas-y.
Une sorte de transition, Kevin, c'est ça?
Non, mais parce que on a parlé de la technique, premier degré, qui est impressionnante, mais il y a aussi un autre aspect...
Cameron est aussi réalisateur.
Non, mais il y a vraiment le côté cinéma pur, c'est-à-dire la mise en scène, et Cameron... C'est un champion. En vrai, c'est qu'il y a une scène d'attaque de train qui est oufissime,
ouais.
Juste en termes de construction, de montage de plan.
De narration.
La... Et même au-delà de bah, la technique participe, hein, bien sûr, au rendu visuel de ce que tu vois, mais je trouve que Cameron, c'est un maître du découpage, de l'action et justement de la construction de cadre, en tout cas, dans toutes ces phases, toute la composition dans ces phases qui sont extrêmement vives. Je trouve que c'est un maître du mouvement, il sait vraiment mettre du mouvement dans chacun de ses plans, il sait guider notre œil vers le personnage, vers l'action. Et je pense que là-dessus, il n'y aura pas de débat non plus. En termes de pure mise en scène, premier degré, Cameron, c'est un champion et là, on ne peut rien lui enlever.
Je te rejoins.
Je vais rebondir là-dessus parce que je trouve qu'on va parler du scénario et pour moi, après avoir vu ce film, ce qui m'a le plus apporté d'émotion, c'est plus la mise en scène que le scénario, justement. Et je suis complètement d'accord avec toi, Kevin. Et ne serait-ce que, par exemple, il y a effectivement les scènes d'action. Du coup, t'es pris en tension en tant que spectateur, quoi. C'est un vrai grand divertissement. Tu t'accroches, même si finalement tu pourrais avoir décroché un peu du scénar 5 minutes avant. Il suffit que la scène d'action soit là, hyper bien réalisée et tout, et ben t'es repris direct, quoi. En fait, c'est un peu de la magie. C'est cette magie de réalisateur, c'est qui te rattrape.
Tu t'y perds jamais
et,
aussi. Dans cette action, tu t'y perds jamais.
Ouais. Et même du côté, par exemple, de à la fin, Kiri qui fait appel à son pouvoir pour aller sauver ses frères. Sa sœur et sa mère dans le bateau là qui sont à façon Titanic en train de se noyer, et ben la manière dont la mise en scène de ce moment, comme tu disais Kevin, dans le mouvement qui accompagne la caméra qui va en sous-marin avec ces choses qui brillent et tout, et la manière dont tu viens les chercher, l'émotion qui se transmet entre les personnages à ce moment là qui sont en détresse et qui viennent se sauver, mais t'es hyper pris en fait.
Plan, le plan de Loclac, je vais l'appeler Loclac tout le podcast, je suis désolé,
avec sa baleine
et la baleine, tu vois, par exemple,
c'est
qui est qui est simplement, non c'est pas ça, on peut pas dire simplement, mais qui est juste, t'as une iconographie, c'est tellement porteur de sens quoi, que artistiquement Cameron c'est quand même, c'est un chef.
Qui d'ailleurs une iconographie en miroir par rapport à un plan du 1.
Oui, avec le...
Avec le tuk-tuk, avec le ptérodactyle.
Je ne sais plus comment il s'appelle,
ouais,
le truc.
Tout le coude, je crois.
Ouais, c'est ça.
Je vais chercher, mais dites, parlez entre vous.
Et en fait, cette mise en scène, elle est réussite parce que Cameron, il a complètement compris l'outil technique qu'il utilise. C'est-à-dire qu'il sait qu'il fait son film en 3D, il développe son outil et sa mise en scène pour la 3D. Je vais préciser un petit peu, mais en gros, il va te mettre un premier plan, un second plan fixe et une profondeur. Et comme il doit faire ça pour que sa 3D fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de films qui sont convertis en 3D, qui, comme ils n'ont pas été pensés en 3D, bah, tu te retrouves avec des plans qui n'ont aucun sens en 3D, qui n'ont pas de valeur artistique. Et bah, lui, non, il pense son film en 3D. Donc, tu auras toujours une broche au premier plan, son personnage qui veut sublimer au second plan, et dans le troisième et dans l'arrière-fond, hein, dans le fond, dans le troisième plan, tu as l'objet qui va attirer l'attention du personnage principal. Et cette mise en scène, elle est bonne, et il est obligé de prendre son temps, parce que pour la 3D, tu peux pas faire des plans ultra cutés, ça ne fonctionne pas. Du coup, ça devient flou, du coup, ce n'est plus lisible. Comme la 3D nécessite des plans longs, stables, et qui se développe dans le temps, et ben ça forcément ça vient rythmer sa mise en scène en fait.
Mais t'as sûrement raison, mais je trouve que ce qui est fort en plus, c'est que certainement sa mise en scène du coup sublime cette technique et la technique, enfin en tout cas il s'adapte à ça, mais malgré tout ça ne dénote pas du tout des autres films qu'il a pu faire en réel, comme Titanic, comme Terminator, et même
quoi.
Je trouve qu'on retrouve vraiment sa patte, et c'est là en ça qu'il est fort, parce qu'il s'adapte à une technique différente et il l'implémente dans sa manière de faire en tant que réalisateur, mais malgré tout ça reste des plans à la Cameron, ça reste comme pour Spielberg quoi, enfin tu vois vraiment
ça reste,
sa manière
c'est un
de
auteur,
réaliser,
est-ce qu'on peut le dire,
en fait,
c'est un auteur quoi.
Non, ça reste prévisible, là où d'autres vont se prendre les pieds dans le tapis et te donner des actions tu vois, je pense à du je sais pas, certains films Greengrass ou même certains films Avengers et tout, où tu te perds un peu dans l'action parce que c'est très brouillé. Cameron, même si l'action est ultra comment dire, dantesque, il y a énormément de, tu peux te dire, il va y avoir énormément d'éléments à l'écran, et il va réussir à te faire en sorte que sa mise en scène soit lisible et que ses scènes d'action soient lisibles. Et
ça, c'est hyper chorégraphié en fait.
C'est, en tout cas, c'est un don qu'il a pour ça, et c'est vrai que ça se retrouve pas seulement dans l'Avatar, on peut le retrouver dans Terminator, dans les True Lies, dans d'autres films ou dans d'autres scènes d'action de ces films qui montrent des scènes d'action ultra pensées et ultra bien foutues en fait. Et ça, c'est de la mise en scène pure.
Mais d'ailleurs, je disais ça parce que en fait, quand on voit Avatar 2, on pense énormément à Terminator à certains moments, on pense énormément à Titanic et à d'autres. Enfin voilà, il y a vraiment des.
Ouais, c'est un peu la compilation.
Abyss,
il y a vraiment des plans échos à Terminator.
Ah, mais clairement,
et
puis
le
y a des
crâne
plans...
et tout, c'est Terminator.
Cameron, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a une différence entre avoir plein de plans très rapides et le dynamisme d'un plan, tu vois. Ouais, il y a plein de réalisateurs qui oublient, qui se disent, bah pour être dynamique, il suffit de mettre plein de plans. Non. Tu peux mettre que deux plans. Ça dépend comment tu
les regardes. Terminator 2, qui est peut-être un des plus grands films d'action qui ait jamais été tourné, est très peu coté. C'est très peu cuté. C'est des scènes d'action souvent à durer longtemps. Enfin, je veux dire, le plan ne cut pas tout de suite. Quoi.
Ouais. Les purs.
Ouais. Mais voilà, on a exposé les qualités de James Cameron, des qualités qui ne sont pas à débattre parce que voilà, c'est gravé dans la roche depuis très longtemps et c'est encore plus sublimé avec ce film-là. Qu'en est-il
maintenant,
du vrai défaut du film
les
pour ma part
noirs.
Voilà, du point noir qui me fait dire que on s'est pas trop foulé pour ce qui était de ce scénario, j'ai l'impression.
Après, ouais.
Qu'en pensez-vous
Moi, je suis sorti de la salle vraiment. Enfin, heureusement qu'il y avait de la mise en scène et c'est vraiment. Du coup, j'en suis parti avec des belles images, des belles scènes et tout. On parlait de la baleine et tout. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Mais à part ça, enfin. J'ai refait un peu le film et je me suis dit, bon, ils sont un peu foutus de notre gueule.
Attends,
je suis pas d'accord.
Qui, quand ? Ok.
Non.
Non, mais pour dire,
alors,
moi
non,
je l'ai
en
vu.
Fait. Vas-y.
Ouais, non.
je... Bon.
Qui ? Quoi ? Non, hein, mais j'ai trouvé non, ça chiant. Voilà. Je... Premier visionnage, j'ai trouvé ça chiant.
Non, voilà. Mais ouais, enfin, franchement, bah, alors clairement, c'est la même histoire. C'est encore les humains qui sont là. Oh là là, ils sont chiants, on va se rebeller, on va le faire en cachette, et puis tatata, et puis au final, grand combat, et puis voilà, c'est fini.
Voilà.
Ça, c'est vraiment sur l'intrigue de base.
Méchant, méchant, gentil, quoi.
C'est voilà, c'est ça.
Très manichéen.
Et après, moi, ce qui m'a dérangé aussi. Enfin. Au-delà de ça, ce qui m'a dérangé, c'est aussi qu'il essaye de traiter plein de sujets à la fois. T'as un peu le rapport familial, père-fils, mère-fille, deuil. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs. Et en fait, à la fin, tu fais, mais en fait, il a traité aucun sujet. Enfin, il s'est arrêté sur aucun sujet.
Bah, attends, après, il faut se dire quand même qu'il y a trois autres opus derrière.
Non,
et...
mais ça, oui, mais alors
non,
ça.
Non, mais il y a des trucs qui restent
ça,
en suspens
moi,
et assumés.
Ça, je l'entends parce qu'en fait, c'est son argument marketing qui sort depuis la sortie du film. C'est attendez, les gars, j'ai sept idées de film.
Non,
le
mais
prochain,
tu sais, par exemple,
Kiri,
c'est sûr qu'elle prend de l'importance, mais elle en aura sûrement encore plus par la suite.
Oui, non, mais d'accord, mais ça. Enfin, moi, on fait pas un film de transition. C'est-à-dire que.
Parce que je voulais dire, Kiri, elle va prendre son importance à l'heure du goûter. Il fallait pas. Non,
mais
on continue.
Non, et en fait, aussi dans le scénario, il y a plein de trucs qui sont pas vraiment. Enfin, qui sont un peu mis de côté ou accélérés. Et par exemple, tu vois, la réimplantation des humains. En fait, tu vois que les mecs ont une infrastructure de ouf qui sont vraiment venus. Enfin, c'est juste. Allô ? Ouais, les humains sont revenus. Oh putain, merde, il va falloir se rebattre, tu vois. Mais en fait, on a rien vu.
Après, oui.
C'est pas traité.
Moi, je vois ce que tu veux dire,
c'est
que. C'est
une menace fantôme.
On reste.
Et Dieu sait que c'est un film de merde.
On reste rivé sur Quaritch et sa vendetta là qui ne regarde que lui, hein, même si c'est ouais. Même si c'est pas vraiment la même personne, ça reste quand même les mêmes intentions que la conscience USB qu'on lui a foutu dans le cul. Mais c'est voilà, on reste sur ça alors que c'est vrai qu'on développe pas trop ce qui se passe derrière. On nous montre un train à un moment, on nous montre
toute l'infrastructure humaine un peu.
Voilà, on nous montre derrière. La chasse à la baleine et parce que voilà, elle a un composant en elle qui permet aux humains de ne pas vieillir. Enfin, tu sens qu'il y a quand même voilà, cet aspect colonialiste qui est là derrière où on va venir exploiter les bienfaits de cette planète. Mais on reste sur Quaritch, quoi. Et tu te dis, mais c'est bon, on en a déjà assez soupé de Quaritch. On est encore sur Quaritch et Jake et leur guerre de merde.
Après, c'est la némésis un peu... En vrai, moi, ça me choque pas, tu vois. En vrai, je pense pas que le scénario soit mauvais. Le scénario, il est pas mauvais. Et tu tiens pas un film de 3h30 avec des gens qui vont le voir si le scénario est mauvais. C'est ce qu'en plus que. C'est une réflexion que j'avais entendue en plus dans un autre podcast que je vous conseille, le Floatcast de Florent Bernard qui disait ça.
Ah, il faut pas confondre intrigue et scénario.
Déjà, faut pas confondre intrigue et scénario, mais en gros, un scénario qui te tient de bout en bout et que tu, oui. que tu peux regarder pendant 3 heures, c'est pas un mauvais scénario. Après, il a des limites dans le sens où, déjà, bon, on va faire les qualités déjà, ça va être plus simple. Je trouve que il s'est très bien développé ses persos. En tout cas, dans le sens où on arrive à avoir de l'empathie très facilement pour eux. T'as très vite de l'empathie pour, ça, les, pour les gamins. Pour Loclac, pour Kiri. Ça me fait rire dès que je dis Loclac, excuse-moi.
Mais parce que toi, à chaque fois que ça parle de bouffe, t'es content.
Ah, j'adore la bouffe, quoi. Non, déjà, il y a ça. Et en fait, finalement, un film, ce qui est le plus important, un des aspects les plus importants, bah, ça va être les persos. C'est plus ça, tu vas t'identifier aux persos. Limite, si l'intrigue, elle est toute simple, tu t'en fous. À la fin, c'est pas grave. L'important, c'est le voyage, c'est le chemin, c'est les personnages, comment ils vont évoluer. Et ça, c'est bien fait. Par contre, je trouve que là où, pour moi, le vrai défaut du scénar, c'est qu'il fait pas l'effort de faire des petits twists et tout. Ça veut pas dire retournement de situation, ça veut dire de varier un petit peu dans sa manière de raconter l'histoire, parce que c'est très, comme tu disais Romain justement, je trouve très, très en miroir en fait d'Avatar 1. Finalement tu retrouves les mêmes événements, tu retrouves la même problématique de je dois m'intégrer dans une nouvelle société, je dois apprendre à redompter, voilà, c'est un poisson, avant c'était un dragon. Il y a un truc où je me dis il aurait pu en traitant des mêmes thèmes, peut-être pour faire un peu de variation, peut-être pour mettre un rythme un peu différent, raviver l'intérêt, prendre de temps en temps un autre angle.
Bah ouais, avoir des problématiques différentes.
Ah mais ça c'est là.
T'es quand même dans un univers mais hyper vaste et tu te dis je vais prendre les mêmes problématiques et juste les déplacer dans un univers différent.
Et aussi des faux manichéisme. En fait le problème du manichéisme aussi, enfin. En fait, c'est un peu fatigant le manichéisme. Parce que, et d'ailleurs, en plus, Cameron s'est exprimé il y a pas longtemps, après la sortie du film, en disant bah, vous verrez, dans le 3, il y aura des navis méchants, il y aura des humains gentils. Ok, très bien, mais le truc, c'est que là, sur 2 films, les humains, ils sont toujours méchants. On sait pas pourquoi ils sont méchants. Parce que, ils peuvent être méchants, hein, mais dites-moi pourquoi ils sont méchants, les humains. Pourquoi ils.
Bah pour la glande de la baleine.
Si c'est juste pour dire, bah, écoutez, intrinsèquement, la nature humaine, elle est. Voilà. Ok, très bien, mais en fait, c'est intéressant que si tu me le développes. Il faut aussi que les navires soient gris, pas de peau, bien sûr, mais gris.
Ils le seront bientôt, le peuple descendre.
Non, mais peuple descendre, mais des gris dans leur psyché, quoi. Ouais. Je sais pas. En fait, il manque ce truc-là. Pour moi, il manque cette petite aspérité pour que vraiment l'histoire soit passionnante. Quoi.
Et le problème, c'est que c'est récurrent chez Cameron. C'est pas seulement dans les Avatars. Hein. C'est aussi le cas dans Terminator. C'est
regarde
aussi
Terminator, l'intelligence qu'il a eue, c'est que le manichéisme, il l'a inversé dans le 2.
Oui, mais ça reste quand même du manichéisme inversé. Enfin, c'est
oui,
quand
mais
même,
ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fait un twist. Enfin, il s'est passé un truc.
Ouais, oui. C'est la bonne idée qui
fait
le truc.
Non, mais si, tu vois, c'est du manichéisme inversé, oui et non, parce que l'antagonisme est toujours présent, c'est nécessaire dans la manière dont il construit ses scénarios, mais ça montre, comme dit Kevin, un côté gris des choses, parce que du coup, tu vois l'autre aspect, tu vois que d'un côté, il y a des gentils et des méchants, et de l'autre côté, il y a aussi des gentils et des méchants. Enfin, tu vois, c'est pas juste d'un côté gentil
et
d'un
aussi,
côté méchant.
Et là aussi, voilà, tu l'as dit, Kevin, mais c'est ce jeu de miroir on a l'impression de revoir vraiment. C'est une redite du 1. Alors, effectivement, c'est un avatar humain dans le 1 qui est Jake Sully. Là, pour le coup, c'est personnifié par son gamin, là, Loclac, qui, lui, doit aussi apprendre à communiquer avec les bêtes, doit aussi apprendre à monter ses nouvelles montures aquatiques. C'est la même chose. Et même dans la construction du film, on est dans une symétrie qui est tellement cameronienne à laquelle on s'attend. On connaît cette construction, tu vois. C'est une symétrie, en fait. Vous regarderez dans le film. C'est qu'il y a un début qui ressemble à la fin et en fait il y a une réponse tout le temps et donc tu sais très bien comment ça va aller. Et le problème, c'est qu'il y a cette surprise en moi. Alors déjà, passer l'aspect surprise, effet waouh, découverte qu'on avait eu pour le premier Avatar à l'époque où tout le monde était en mode waouh, qu'est-ce que c'est de cette dinguerie. Là pour le coup, l'univers on le connaissait et tout, on n'avait plus ça. Mais on n'a pas réussi à avoir un nouvel effet, dans le sens où il retombe un peu dans ses travers scénaristiques. Malheureusement, je dirais pas que c'est un mauvais scénariste, hein, c'est quand même des scénarios qui se tiennent. Mais c'est des scénarios qu'on a déjà vus et revus, et notamment chez Cameron, qui sont souvent la même recette qui fait que ben, l'effet de surprise, même juste dans la découverte de l'intrigue, je suis désolé, mais moi, à la fin, quand le gosse il meurt, là, je fais, ben, ça fait déjà 3h30 que je le savais, en fait. J'ai pas ça, parce que je sais où tu nous embarques, malheureusement, même si c'est très beau, même si c'est ceci, c'est cela. J'ai plus l'effet découverte. Tu m'as eu avec le premier, parce que c'est Pocahontas à l'espace, mais c'était l'effet « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, du coup, je te pardonnais. Là, pour le coup, j'y suis plus.
Donc, t'as le concept aussi.
Donc, je me suis emmerdé. Je me suis dit, bah, c'est dommage parce que, comme j'avais déjà tout deviné, bah, pendant 3 heures, j'étais juste en train de regarder des belles images.
J'aurais pu plus facilement l'accepter si on avait. Pardon, Kevin, tu voulais rebondir directement parce que. j'aurais pu plus facilement l'accepter si tu allais traiter un sujet secondaire. Et c'est là où, en fait, je vais rebondir sur ce que je disais sur le... tous les sujets qui sont un peu semi-traités dans le film. Si tu avais pris un sujet et quand tu en avais fait un peu l'intrigue secondaire de, du film. Et par exemple, tu vois, il y avait un très beau truc à faire sur le métissage. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les Navis ont 5 doigts. Non, les Navis ont 4 doigts. Les avatars en ont 5. Et en fait, les enfants, donc les sangs de bourbe, là, enfin...
les sangs de bourbe,
ils en ont 5. Sauf un. L'aîné a 4 doigts.
Ouais, la
c'est des sangs mêlés, en fait.
Ah, l'aîné, donc du coup, c'est pas le fils de Jack.
Et c'est le seul qui a pas de sourcils et qui a les yeux un peu plus écartés, comme les Navis.
C'est le fils du facteur, en fait.
Aussi, en fait, c'est ceux qui sont au milieu qui ont 5 doigts.
Ouais. Ok, bref, enfin, en tout cas, il y a tout un... Il y a un début... d'intrigue autour du métissage. Ouais, ils se foutent un peu de leur gueule et tout. Mais c'est tout. Après, on passe sur un autre truc parce que, en fait, finalement, Kiri cherche à. Est-ce que c'est ma mère, machin, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de petits trucs qui font qu'en fait, du coup, on se recentre sur l'intrigue principale parce que y a plein de sujets secondaires, mais du coup, on n'en suit pas vraiment un seul. Et du coup, on finit par se redire bon, du coup, c'est quoi l'histoire? Ah bah oui, bah non, c'est l'histoire du premier. Et c'est ça qui est un peu frustrant. Ouais, si tu nous avais mis un sous-texte. Un peu comme on disait la semaine dernière sur Pinocchio, sur la mort et le deuil, bah tu vois l'image à travers ce prisme-là. Et là, bah tu le vois que comme une histoire.
Et puis oui, bon, ok, il y aura d'autres films derrière, évidemment, il y a certaines choses.
Ouais, ça, c'est pas un argument pour moi.
Je pense à Kiri avec ses pouvoirs de Kamehameha, tout ça, évidemment, ce sera plus exploité plus tard. Locklack qui est un paria, en fait, au final, ça reviendra plus tard. Spider, qui est intégré à la famille, ça reviendra plus tard. Tout ça, c'est des préparations pour plus tard, mais en même temps, un film devrait se tenir en lui-même et pas se dire, mais vous verrez ça dans la suite, tu vois.
Dit le mec qui est fan du MCU.
Ah, fut fan.
J'avoue.
Ah, fut fan de la phase 1, 2, 3, arrêtez un
touché.
Peu. La 4, c'est de la merde. Bref, William, tu voulais dire quelque chose, je te vois trépigner là-dessus.
Ouais,
sur
ouais, je trouve que je vous trouve très très dur avec le film pour plusieurs raisons. Vous avez dit beaucoup de choses, je vais essayer de me rappeler de tout, mais bon, là, on parlait de la question du métissage. C'est vrai que le film va. Il en parle un tout petit peu, il va pas très loin, mais en même temps, c'était une thématique déjà complètement traitée dans le premier film. Est-ce qu'il y avait besoin d'en faire plus ?
Sûrement. Pas vraiment sur... C'était plus l'appropriation culturelle.
Ça en fait partie. Ça en fait partie. Et je trouve que le film, il a l'honnêteté de te dire voilà quelles sont mes contraintes thématiques. Je vais rester dedans. Alors certes, c'est vrai qu'il y a un côté redondant avec le personnage de Quaritch qui revient, par exemple. Je suis d'accord avec tout le monde. La première réaction que je me suis dit, c'est « Ah, il nous remet le même type ». Sauf qu'en fait, le Quaritch de ce film-là, c'est pas le même type.
Ouais, mais là, comment il raconte les wagons ?
On est d'accord. On est d'accord qu'on peut dire que c'est maladroit, mais ce n'est pas la même personne. D'ailleurs, les thématiques ne sont pas du tout les mêmes. On parle d'un humain qui se retrouve dans le corps d'un Navi, qui est obligé d'être confronté à son fils, qui a un Navi dans le corps d'un humain.
Non,
tu vois.
Ouais, mais en fait, c'est un peu bizarre d'ailleurs la position qu'a ce personnage, parce que quand ça l'arrange. C'est Jean-Claude quand ça l'arrange pas enfin
oui.
Quand ça l'arrange non en fait je suis pas du tout Jean-Claude
exactement
hein, c'est
et c'est pour ça que quand vous parlez de manichéanisme je suis pas d'accord avec vous
bah,
ça,
bah si quand
non
même.
Mais attendez bah, laissez-moi expliquer non, je trouve quand même qu'il y a certes du manichéisme mais rapporté à l'individu parce que dans le monde il y a aussi du manichéisme c'est vrai qu'on aime quand il y a des nuances ça nous permet d'être beaucoup plus précis, parfois même de s'identifier beaucoup plus, mais le manichéisme existe aussi. Des vrais connards, ça existe. Des peuples antiques qui se sont comportés très mal, ça existe aussi. Et là, dans cette histoire-là, on a un homme qui, justement, se réincarne dans un nouveau corps, qui, symboliquement, se tue lui-même, d'ailleurs, hein, il écrase son crâne, qui se retrouve, en fait, à la frontière entre qui je suis, qu'est-ce que j'ai été et qu'est-ce que je vais devenir, qui, en plus, doit répondre à une contrainte pour lui qui est ce fils qui n'est pas vraiment le sien, qu'il ne connaît pas, mais dans lequel il s'identifie, pour lequel il va développer des sentiments. Finalement, c'est pas si manichéen que ça, et ce personnage de Spider non plus, il l'est pas tant. Certes, à la fin, il l'aide à s'enfuir, mais il retourne avec sa famille d'adoption, et du coup, tu comprends que par la suite, ce personnage-là, il va être entre les deux mondes, entre les deux univers, ça va être une vraie intrigue. Pareil pour la femme de...
Ça reste vu et revu, quand même.
Mais tous les films sont vus et revus, puisqu'ils se basent sur le même genre de récit. Finalement, la question, c'est pas tant quelle est ton histoire, mais comment tu la racontes. Et moi, je trouve que on parle quand même d'un film de science-fiction qui sort de nulle part, avec une narration qui pourrait être justement très critiquée. Et le film cartonne parce que pendant 3 heures, il arrive à te tenir. Les personnages sont quand même bien écrits. Tous les personnages sont bien écrits. Certes, des fois, ils sont archétypaux, mais les dialogues sont cohérents. Les réactions sont parfois... Certes, moi, par exemple, le Toak, Locklack, il m'a plusieurs fois, il m'a agacé, mais en même temps...
Locklack.
Ouais, Locklack. Il m'a agacé, mais en même temps... tu comprends qu'il fait un, c'est quand même un quelque chose qu'on a tous vécu, ce côté genre je veux ressembler à mon père mais en même temps je veux m'en éloigner. Certes il fait des bêtises, mais le parallèle il est saisissant. Le Jack Sully, il a fait la même chose, et c'est vrai que t'as une impression de répétition, mais c'est là où je trouve que Cameron il arrive à amener de la nuance. C'est-à-dire là où Jack Sully a exactement le même parcours, à la fin ça lui est bénéfique, là où pour son fils c'est négatif. Et je trouve que cette nuance-là, bah, elle est déjà suffisante pour justifier toute cette narration-là. Et je vous trouve un petit peu sévère. C'est vrai que le film, on peut avoir une impression de redondance, mais finalement, je le trouve assez subtil pour nous amener dans des choses nouvelles, développer des thématiques qui vont, certes, je suis d'accord avec toi, c'est pas un argument, mais qui vont probablement être de plus en plus importantes dans les films suivants. Et pour un film qui est autant attendu au tournant, je trouve qu'il s'en sort quand même vachement bien, quoi.
Ok, je veux bien lui donner un point de plus, 12 sur 20, mention assez bien. Allez,
mais,
c'est gentil. Le jury.
Non, mais voilà, non, mais après, t'as raison.
Il y a quand même des maladresses, je suis désolé.
Oui, c'est ça.
Le personnage, je voulais rebondir sur
non, mais je suis d'accord. Attends, après, je te laisse la parole, Clémence. Par exemple, le personnage de Spider, il y a des moments, je suis désolé, mais ses actions, tu te tapes la tête contre ton siège. Tu te dis, mais pourquoi tu les aides, en fait? Enfin, voilà, ce
mais
genre
tous
de
les
truc.
Scénarios sont critiquables, c'est
après,
ça.
Oui, si on va chercher directement dans la psyché des personnages et se dire, voilà, leur questionnement et tout, je suis d'accord. Mais malheureusement pour moi c'est pas montré assez correctement pour pouvoir que ça me tienne en haleine.
Non, je voulais rebondir sur William parce que je suis d'accord avec lui en fait. Je suis complètement d'accord que Cameron développe de la nuance, enfin tout ce que tu as dit est pour moi hyper juste, et je trouvais un peu injuste effectivement de dire qu'il n'y a pas de nouvelle thématique, parce que même s'il y a ce parallèle, il y a quand même ce déplacement concret des parents vers les enfants au centre du récit, et du coup c'est pas la même chose. C'est exactement pour ça que ça concourt à amener de la nuance et des choses qui se passent différemment. Donc pour moi le point fort malgré tout de ce scénario, c'est le fait qu'il soit centré sur les enfants, et que du coup c'est pas exactement la même chose, et que ces enfants sont très attachants comme tu l'avais dit, Kevin. Maintenant c'est aussi quand même ce qui amène pour moi un petit défaut, c'est que mon regret dans cette histoire, c'est que Jack Sully et Neytiri, les parents, en fait, là, je suis pas d'accord avec toi, William, je trouve qu'ils sont pas aussi bien développés que leurs enfants. Ouais. Pour moi, c'est un peu une déception, et c'est quand même les héros du 1. Donc, dans la manière dont l'histoire se développe, on revient à eux régulièrement, mais je trouve pas qu'ils évoluent particulièrement par rapport à comment ils étaient dans le 1, et on revient sur eux, c'est assez flagrant, pour qu'ils portent un regard sur les actions de leurs enfants, mais du coup ils sont très périphériques, quoi, et quand ils sont dans l'action c'est vraiment pour des choses qui sont très répétitives du 1, et notamment ce duel avec Quaritch. Donc pour moi en fait les personnages sont forts quand on pense aux enfants, quand on pense à Quaritch et Spider qui en effet amènent des choses intéressantes dans leur relation, mais par contre Neytiri et Jack,
alors
bof.
En fait j'avais pas été assez précis, parce que pour moi c'est un des points négatifs du film, c'est Jack Sully, justement. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'il est pas très très bien écrit, et en plus ils en font c'est dommage, dans le premier film on en fait un humain qui se désolidarise de sa condition d'être humain, et là dans le 2 en fait il se comporte vraiment comme genre le père patriarcal américain de base, ouais. Où ses fils doivent l'appeler.
Les valeurs, il y a un petit problème de valeurs.
Un petit problème de valeurs, le voilà. Mec abandonne un peuple tout entier pour ses enfants, mais on a l'impression que je sais pas, c'est mal amené, je trouve.
Tout d'un coup, il donne des. Là où dans le premier film, il avait l'air d'être quand même vachement à l'écoute des conseils de sa femme, là, il lui donne des ordres carrément. Plusieurs fois, il fait. C'est un ordre, tu vois.
Ouais, c'est ça aussi sa fonction militaire qui reprend dessus, quoi.
Bien sûr, mais je trouve ça dommage parce qu'ils avaient réussi à progressivement à la faire disparaître dans le premier film. Et pour la question. Comment s'appelle sa femme?
Neytiri.
Et pour Neytiri, c'est vrai que. Nefertiti ou. Neytiri, là où j'étais assez d'accord avec toi sur presque tout le film, et à la fin. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle revient avec cet esprit vengeur. Et j'espère que dans le troisième film, ça va vraiment presque devenir un antagoniste.
Oui, mais tu vois, pour moi, l'esprit même vengeur de Neytiri n'est pas nouveau par rapport à comment elle était dans le 1.
Ah,
et
ouais,
ça a plus de valeur par le regard que pose sur elle Spider quand il en a peur.
Exactement.
Et c'est plus ça qui est intéressant. Donc pour moi, c'est pas son personnage
puis,
à elle,
raison,
c'est
oui,
plus
oui,
le regard qu'on
raison,
pose dessus. Tu vois.
En plus,
après, c'est bien raconté quand même. Ouais. Hein, mais,
en plus qu'il soit en retrait au profit des enfants, on sent aussi chez Neytiri, je sais pas, on dirait que... est devenue femme au foyer résignée, quoi.
Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il va la faire ressurgir dans le troisième. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette scène où justement elle fait peur à Spider, où elle est prête à le tuer quand même.
Il y a
ce truc-là, moi, je pense que c'est l'amorce d'un personnage féminin qui va complètement vriller dans le troisième.
Qu'il y aura combat à Jake et Neytiri et que ça va splitter, quoi.
Ça pourrait devenir genre même la chef d'une espèce de rébellion beaucoup plus sanglante, avec un Jake Sully qui devient beaucoup plus faible en disant mais venez juste, on essaye de les éviter et on se cache là où sa femme va être.
Faut bien qu'il tue Jake Sully.
Ouais, voilà,
oui. Voilà, pareil. J'aimerais que ce personnage disparaisse.
Je pense qu'il sert à rien.
Vous pensez pas qu'il y a un moment où il fera disparaître peut-être un des parents ou voir les deux parents au profit des enfants?
Oui, de toute façon, il va sortir le film dans 20 ans.
Il y aura certainement des ellipses aussi.
Le 3 et le 4 sont déjà en très grosse partie tournées.
Il faut dans le temps.
Mais finalement, ce qui est intéressant comme thématique au centre de ce film et qui n'était pas dans le précédent, c'est ce lien familial. Et on en rigolait au début avec la famille recomposée, des adoptés, des un peu bizarres, Navi ou pas Navi. Mais justement, la scène là avec Spider à la fin concrétise, mais vraiment. Je trouve un point d'orgue à tout ce que sont les réflexions de ce film sur qui sont nos enfants, nos vrais enfants ou pas,
ou cœur,
enfin,
ou
qui on accepte comme nos enfants. Et le fait de relativiser quand tes enfants naturels sont en danger et l'autre qui n'est pas vraiment ton enfant, que tu serais prêt à tuer, enfin voilà, tout ça est hyper intéressant et c'était pas du tout dans le précédent film.
Il y a toute une réflexion autour du clan familial qui est je trouve,
oui, voilà.
Très, très, enfin, annonciateur de bonnes thématiques pour la suite, et même dans ce film là
mais peut-être
très
que ça sera même d'autres thématiques qui seront amenées dans les suivants, ce qui serait bien, et il y aura peut-être justement des retournements avec les parents, Jack Sully qui mourra ou quoi, mais en tout cas je pense que ça sera resté peut-être la thématique de cet opus et ça c'est chouette. Et
je voudrais juste dire un petit dernier truc, après je vous laisse continuer à débattre, mais moi il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est dans la narration du film, c'est le fait qu'il ait fait une grosse plage en plein centre du film où pendant 45 minutes t'as de l'exposition d'environnement, de bestioles. Je trouvais ça génial. Je trouve que ça permet d'amener du calme avant le dernier acte qui dure 30 minutes d'action en non-stop quasiment. Qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est beau.
Et ça, ça fait plaisir, je suis d'accord avec toi, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule recette de blockbuster possible.
Exactement.
Alors, il faut peut-être s'appeler James Cameron pour pouvoir proposer quelque chose de
avant,
différent
au
menu.
Mais il a poussé le curseur à fond et
ça
fonctionne.
Le problème, c'est que c'est James Cameron, donc il n'y a que lui qui peut faire ça, malheureusement.
Non, mais le problème, je suis désolé, c'est qu'il y a eu une parenthèse Marvel, encore une fois, je vais taper dessus, qui a fait croire à tout le monde qu'il n'y avait qu'une seule recette.
Oui, mais justement, même si le film, qu'il soit bien reçu ou pas, dans sa forme, en tout cas, dans sa construction...
Il propose quelque chose.
Je dirais pas de nouveau, on pourrait dire de nouveau, mais non, c'est quelque chose qui est là, qui existe depuis très longtemps. C'est juste que ça fait des années et des années qu'on nous a habitués à une certaine recette, que tout le monde se l'approprie pour pouvoir faire du fric. Non, il y a une autre manière de proposer du cinéma spectacle qui a un autre goût que du Marvel Studio et du DC Universe et du super-héros, en fait. Parce que même si ça parle pas de super-héros, la recette reste quand même appliquée à d'autres films d'action et j'en passe.
Est-ce que ça fait pas du bien déjà d'avoir un blockbuster où il y a pas de putain de blagues?
Si,
ça fait du bien.
Oui, c'est très premier degré. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en écriture.
Il y a des vrais enjeux dramatiques. Je veux dire, c'est pas genre oh là là, un monstre, il va nous attaquer, prout. Enfin, ce qui est globalement Marvel, si je résume. Donc, ça fait quand même plaisir d'avoir des vrais enjeux, des vrais personnages qui sont développés. Et malgré tous les défauts qu'on peut y trouver et desquels on a débattu, c'est quand même un truc qui se fait de plus en plus rare, en tout cas dans le cinéma grand public, quoi, malheureusement.
Et pas de blague, mais tout en gardant quand même une légèreté. C'est-à-dire que...
Oui, non, mais ça veut pas dire que c'est lourd. Mais justement, ça montre que tu peux avoir un film qui est accessible à tout le monde sans faire des blagues à la con toutes les 3 secondes.
Ouais. C'est surtout une absence de cette espèce de second degré et de regard méta sur son propre film qu'on voit beaucoup
cynique,
dans
tous
les blockbusters maintenant, et parce que c'est une recette. Là, en fait, c'est juste le récit pour le récit, un peu premier degré. Et voilà.
Ce qui est agréable aussi, c'est que le film, il rompt avec quelque chose qu'on a beaucoup en ce moment. Et tu en as parlé un petit peu, et je voulais réagir, mais je trouvais ton point de vue assez intéressant sur le sujet. C'est que tu disais, des fois, ça manquait un peu de twist, etc. C'est vrai qu'il y a cette culture de la série qui s'est développée depuis 10-20 ans, qui nous a rééduqués à apprécier du contenu multimédia en se disant... À la fin de l'épisode, il faut qu'il y ait un twist, il faut qu'on me relance l'action pour le prochain épisode. Et je trouve que dans ce film-là, il prend le pari inverse. C'est-à-dire qu'en plein milieu du film, il te dit « Bah non, non, maintenant on va se calmer, on va prendre un bon petit temps pour observer des baleines jouer dans l'eau. » Et ça m'a plu. Il y a un léger point négatif dont je voudrais parler, et c'est peut-être le truc qui m'a le plus...
C'est juste paradoxal avec ce que vous disiez sur « Oui, mais il y a un 3 qui arrive, tu vois. » C'est-à-dire que tu peux pas plus cacher tout le temps derrière...
Mais parce que je suis comme tout le monde, j'ai été aussi éduqué à ça.
Ouais.
Et ça me fait plaisir de voir qu'il progressivement il va peut-être nous déséduquer de ce truc-là, pas avec ses suites, mais au moins avec sa mise en scène. Et pour moi, le dernier petit point négatif dont j'aimerais parler, c'est qu'il y a de la musique tout le temps.
Ah, mais ça, en ce moment, dans les films,
c'est un film
américain. Et ça, malheureusement, c'est terrible parce qu'il fait 45 minutes dans l'eau et j'aurais aimé que ça soit que du design sonore, qu'il arrive à nous englober dans une espèce d'ambiance. Ouais, par exemple, ou bloup, 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 tu vois. Et. Et là, pas à un moment, pas à un moment, t'as du silence.
Ouais.
Pour un film qui se veut contemplatif pendant 40 minutes en plein centre, j'ai trouvé ça légèrement dommage.
Point négatif, et on va peut-être terminer là-dessus pour nos critiques, mais j'ai un autre point négatif aussi, moi, qui me dérange. Alors, ok, d'accord, je veux bien qu'on s'inspire de la Terre. Mais on est quand même à Pandora, qui est quand même à 6 ans de voyage interspatial, je sais pas quoi, etc.
C'est
très très loin.
D'accord.
Et c'est qu'on se retrouve avec un peuple parodié néo-zélandais ou polynésien qui ouais. Ben, du coup, tous ces tatouages
sur des îles sur qui des ressemblent. Îles
Alors, je veux bien qu'on s'inspire ça pour la faune et tout, mais je trouve qu'il y a quand même une petite maladresse de ce côté-là, en plus, notamment dans leur action, parce qu'à un moment, quand ils sont énervés, on les voit faire un haka et tirer la langue. Tu fais là, tu veux. Peut-être tu pousses le bouchon un peu c'est trop vrai. Loin, Maurice. Mmh. Et là, je pense que t'es limite border. Alors, je veux bien que ce soit peut-être un hommage, mais je pense que si je faisais partie de ces cultures-là, je serais pas trop content de se dire que ben en fait on représente une race extraterrestre comme ça, parce que c'est comme ça qu'on imagine les gens qui vivent au bord de la mer.
C'est un peu ce qu'il avait déjà fait dans le
1, ouais.
Dans oui, le film avec les natives américaines. Ouais. Qui étaient représentés par les plumes, les, tu vois.
Les plumes, là, les arcs, les machins.
Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une attaque de train dans le film. Hein. C'est,
oui,
c'est western. Hein.
Oui,
non,
oui,
mais,
c'est un
premier degré.
Et en fait, western. Tu comprends que ce sont des cultures auxquelles il s'est intéressé et qu'il aime plus que tout et il voulait les représenter.
Mais bon, ouais. Après, voilà, je pense que c'est pas du tout un point de vue politique ou quoi. Je pense que c'est juste une maladresse et qu'il s'est juste inspiré de ce qu'il
l'entoure. Je pense que c'est un vrai amour pour ces communautés-là et qu'il voulait les représenter.
Mais ce sont des cultures qui ont des choses à défendre et avec lesquelles on peut pas utiliser. On peut pas extirper comme ça, c'est limite de l'appropriation culturelle, et c'est vrai qu'on en parle là ces derniers temps beaucoup, et c'est dommage d'intégrer ça alors qu'il a avec lui une page blanche, un univers où tout est à construire. Et après, même un autre petit reproche, c'est que bon, on n'a pas beaucoup de différences aussi entre notre faune, notre flore et tout, qu'on retrouve pas trop dans le film. Les baleines sont, les toulkuns sont clairement des baleines, les méduses.
Oui, oui. Les méduses, elles font quand même bouteille d'oxygène, je trouve ça assez original. Tu vois.
Ouais, d'ailleurs,
non, mais
il
faut
jamais
que tu
vois
ça. Valonia, ça. Il y a une bonne faune.
Ah, il y a une meilleure faune. Hein,
très originale.
Il y a peut-être un entre-deux à trouver.
Tu revois à Valonia.
Non, mais voilà, après.
Et du coup, le 3, dans les volcans, ils auront des petits gilets en peau de mouton.
Je sais pas, ils vont chez les
ils mangeront du fromage de brebis et tout.
Il y aura Jean Lassalle.
Bon, voilà. Petite projection sur le 3 de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Ce sera le peuple des cendres, le peuple du feu, quoi, entre guillemets, qui sera mis à l'honneur après l'eau, le feu.
Link sera le personnage
principal. J'ai vu une info aujourd'hui qui disait que c'était Una Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, qui jouerait le rôle de la chef de clan des cendrés.
Qu'on a pu voir dans Game of Thrones, si vous savez pas qui c'est, c'était la femme de Robb Stark pendant les noces écarlates.
Okay.
D'accord, ok. Très bien. On va suivre ça de très près. Hein. Ce sera pas avant 2024, on a le temps de voir venir. Hein. Calmez-vous tous. Le film, je crois, est terminé de tourner. En tout cas,
ils ont commencé à tourner en septembre 2020, je crois.
Ouais, donc c'est sur la fin ou bien c'est fini. Enfin, je sais plus trop. C'est quand même.
C'est pas déjà tourné. Il avait dit qu'il avait tourné les deux en même temps.
Il a tourné 2, 3
tout
et 4.
C'était déjà écrit jusqu'au 5. Et là, je crois que le 3 et le 3
et une partie du 4.
Une partie du 4 sont
bien avancées en tout cas.
Tournées. Je crois que le 3 est pratiquement fini.
Attends, j'envoie un texto à John. James.
Attends, moi je l'appelle. Parce que je connais son prénom.
Écoutez, c'est un long débat, mais c'est normal qu'on soit un peu étendu sur notre critique, parce que y a beaucoup de choses à dire, voilà. En même temps, on peut pas reprocher ça à James Cameron, hein, même s'il est là que tous les 13 ans. C'est qui fait parler, il rameute les gens en salle déjà pour commencer, et certainement que derrière il y a énormément de débats aussi dans les groupes d'amis. Voilà. En tout cas, il fait vivre le cinéma comme on a plus l'habitude de le voir. Et certainement qu'il fait couler aussi beaucoup d'encre, parce que après nos critiques, vous le savez, il est temps de se tourner vers les professionnels, parce que nous ne sommes que des
pleutres. Nous sommes des merdes.
Nos avis comptent-ils vraiment par rapport à la presse? Je ne sais pas.
Revue de presse.
La 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 revue de presse.
J'ai dit que ça a fait couler de l'encre. Est-ce que l'eau de Pandora a déversé sa vague?
Où est-ce que tu vas?
Sa vague sur
capitaine,
les...
Capitaine, alors
Il est là.
Capitaine abandonné.
Oui, là, oui, Romain, la revue de presse, bien sûr.
Alors, Kevin, la revue de presse.
Oui, oui, oui. Déjà, on va commencer par les notes, bien sûr. Alors, Rotten Tomatoes a donné la note de 76%. C'est pas gigantesque.
Ouais, c'est moins Pinocchio.
Hein, et ouais. C'est
beaucoup moins.
Metacritic a mis encore moins, 67. Et Allociné, alors là, 4,1, nous on a kiffé.
Comme Pinocchio.
Ah, nous on a kiffé.
Ouais. Ah ouais.
Oh, on a kiffé.
Ah, c'est marrant.
On était en mode pump it up, Avatar 2. Et je vais commencer par les gens qu'on vient d'aimer, notamment Écran Large. Le monde d'Avatar 2 semble s'offrir à nous avec une lisibilité nouvelle, nous plongeant au cœur d'une expérience extrasensorielle qui soutient au passage une 3D exemplaire. Mais il serait réducteur de ne voir dans le HFR qu'une afféterie technique, tant le procédé magnifie le propos de cette suite. Si le premier Avatar abordait son discours écologique avec une pédagogie et de l'espoir, ce qui peut expliquer les nombreuses railleries à son sujet, la voix de l'eau n'a plus ce luxe. La fuite en avant de Jake est à l'image de l'urgence politique captée par Cameron et qu'on ressent autant dans le rythme soutenu du métrage que dans le désespoir très contemporain qu'il met en scène.
Eh ben,
je suis assez d'accord.
Ok, bah oui.
Voilà. Oui, bah... L'humanité maintenant. Le projet pharaonique est réussi avec ses préoccupations environnementales de préservation du vivant. Cameron signe une épopée de plus de 3 heures sidérante, du grand spectacle qui rend métaphoriquement hommage à la beauté de notre planète bleue à nous.
Et c'est rare que l'Huma soit aussi en accord avec un truc qui brasse autant de milliards.
C'est vrai.
Voilà.
Mais bon.
C'était une blague politique.
Oui, oui, c'était, oui bien sûr. Le journal du geek. Certains fous ne croyaient pas au potentiel d'une saga Avatar.
Qui sont ces fous ?
Certains fous ne croyaient pas en la capacité de James Cameron de marquer à nouveau le cinéma. Ces fous oubliaient que la seule fois où le réalisateur a signé pour la suite d'un de ses films, il en a résulté Terminator 2, le jugement dernier. Alors quand le maître signe son retour, on se tait et on admire.
Oh.
Bon, c'est un peu péremptoire comme critique, c'est le journal du geek.
Ah ouais.
Fermez-la
tous.
Okay. C'est James qui est trop fort.
Je le mec bourré à la rédaction. Vous allez tous vous la fermer. C'est lui qui a raison.
On poursuit avec première.
Et ça se trouve, le gars qui a écrit l'article en fait visait un de ses collègues qui n'était
trouve,
pas
ouais.
du même avis.
Ils sont engueulés à la pause neige.
N'est-ce pas,
c'est mal
Nicolas.
C'est
dans l'article quoi.
N'est-ce pas Nicolas. Bon.
Salaud.
On poursuit avec première, ce deuxième volet, si massif, si conscient de sa propre démesure, ne peut se vivre que comme une consécration, la fin, si ce n'est d'un monde, au moins d'un temps. Ça ne sera donc pas celle de la saga, ni même du grand spectacle hollywoodien. Pour son cinéaste, en revanche, cette voix de l'eau vient parachever quelque chose d'essentiel, une trilogie subaquatique entamée en 89 avec Abyss, poursuivie avec Titanic, et qui recueille probablement ce qu'il y a de plus intime et de plus obsessionnel dans toute son œuvre.
Ah bah ça, on en a
l'eau,
déjà parlé. Hein.
C'est-à-dire l'eau.
L'eau, bien sûr. Ah oui. Hein. C'est quand même un des seuls à être allé dans la fosse des Mariannes. C'est quand même un des seuls aussi à avoir visité de lui-même l'épave du Titanic. Enfin,
qui est interdite aujourd'hui à la visite aussi.
C'est sa passion.
Une fois, je l'ai croisé à l'Octudi, Finistère Sud.
Je l'ai vu à SeaWorld. Oh,
Et il ne boit pas d'alcool, que de l'eau.
Ben ça, alors.
Il est potomane, d'ailleurs. C'est un vrai problème.
Incroyable.
Bon, je vous ai donné quelques petites critiques amélioratives, n'est-ce
alors
pas
on veut du sel.
Passons
allez,
aux gens qui, au sel de mer, bien sûr, aux gens qui n'ont pas trop aimé, n'est-ce pas, Avatar 2. Et le monde nous dit, au rayon profit, on relève l'évidence. Une grande saga familialiste, familialiste, étrange mot, familialiste pour les fêtes. Côté perte, la surprise éventée, le scénario simpliste, les dialogues réduits à des clichés.
Ils sont durs.
Ils sont pas gentils.
Ils sont durs.
Moi, je suis plutôt d'accord avec eux.
Oui, en surface, je suis d'accord aussi.
Ils ont quand même ils poussent les potards un peu loin.
Bah,
un peu.
Après, l'effet peut-être. Surprise qu'il n'y a plus, ça, par contre, c'est sûr que c'est sûr qu'on n'a pas l'effet de 2009, mais ça, c'est souvent le cas de toutes les suites. Hein. On n'a plus l'effet surprise, quoi.
T'es sûr. On poursuit avec La Croix. Une ode lyrique à la nature, critique d'une vision anthropocentriste et spéciste qui s'inscrit toutefois dans l'air du temps et saura séduire la génération climat, entre guillemets.
La génération climat.
Tous ces gens qui parlent de climat.
C'est les gens qui pensent qu'il y a peut-être un truc qui se passe en ce moment.
Qui lui font chier avec le recyclage.
La fonte des glaces. Voilà.
Alors que bon, 12 degrés en février, c'est mieux que 2. Alors, reste à savoir si celle-ci supportera les interminable course-poursuite soporifico-aquatique de schtroumpf géant. comme les démêlés filiaux rebattus par d'autres sagas intergalactiques.
Ok, bon, quelqu'un ah de... ouais.
Après,
quelqu'un qui n'a pas adhéré, quoi.
N'a pas trop aimé, quoi.
Et qui tient à l'aquaplaning.
Ça manque peut-être pour eux d'un message christique.
Peut-être que Jésus n'était
pas
assez présent.
Sigourney Weaver, enfin, Kiri là.
Ah bah Kiri, c'est Jésus.
C'est la Vierge Marie.
Ah bah c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas aimé du coup.
Mais ils ont pas aimé qu'elle ne marche pas sur l'eau, justement, peut-être.
Ça va venir.
Il y a personne qui marche sur l'eau.
Ça ah oui. Non mais t'as vu, Jésus, il va dans l'eau.
Ça va venir. Bah là, elle part chez les Gorons chercher les bottes qui lui permettront de marcher sur l'eau. Hein, vous allez voir.
Et bah ça, oui, on verra ça dans le troisième.
C'est elle.
La voix descendre.
C'est l'élu d'Hyrule.
Et on va conclure par les plus joyeux de nos amis journalistes, les cahiers du cinéma, bien sûr. Ah. Un monde qui se dévore lui-même nous est offert en cauchemar. La...
wow. Le mec ne dort plus depuis 5 jours. Tu sais, il a vu Avatar 2, il a fait bah, « je peux mourir, c'est bon.
J'avoue.
Je vais me tailler les veines.
Ah, » oui. Et...
Non, mais
accrochez-vous, elle est pas mal. La fable écologique masque une utopie totalitaire où l'image s'impose de force sans autre position possible pour son spectateur que celle de la soumission. Cameron sera toujours du côté des bulldozers. Voilà.
Ah oui, donc pour lui, on a été embrigadé avec nos petites lunettes 3D.
Voilà.
Là, c'est...
Ça a été écrit par Jean-Luc, hein, j'ai l'impression, hein, qui est décédé, mais qui continue de faire chier.
Non, mais parce qu'en fait, Jean-Luc, c'est un
l'esprit
peu comme Jean-Claude, tu vois, il y a un espèce de truc qui a été mis dans le cul de tous les journalistes
si
du cahier.
Si je veux me faire l'avocat du diable, c'est vrai qu'il y a un petit côté opportuniste. Opportuniste, oui, j'ai fait une liaison.
Oui, de la opportunité.
Il y a un petit côté opportuniste chez Cameron parce que c'est clairement un capitaliste du cinéma qui nous parle d'écologie et qui brasse du fric là-dessus, tu vois. Donc,
oui,
c'est
mais
vrai que ce côté-là.
Encore une fois, si en faisant ça, en sacrifiant un petit peu de cette pureté écologique qu'il a, il permet de toucher plus de gens et potentiellement de financer d'autres choses parce que je crois qu'il est assez philanthrope en termes de sauvegarde des réserves indiennes, etc. Bah, moi, je suis presque pour qu'il le fasse. Quitte à aller récupérer de l'argent à Disney. Autant que derrière, ça serve à sauver quelque chose.
En plus, il a payé, et puis ça, c'est une anecdote, je la répète, je l'ai déjà raconté dans le podcast, et parce qu'on parlait de Pinocchio la semaine dernière, il a quand même sauvé le père de Guillermo del Toro en payant la rançon qui était demandée par les kidnappeurs.
Oui,
c'est vrai. Non,
c'est un héros.
Mais est-ce que le père de Guillermo del Toro trie? Est-ce qu'il recycle? Parce que si c'est pas
vrai,
je comprenais pas ce que tu me disais.
Ouais, non, mais...
Est-ce que c'est un gros pollueur?
Bah, j'imagine.
Bon, dans ce cas, c'est bon.
Non, mais je veux bien. Voilà, c'était l'avocat du diable. Évidemment que je suis pas d'accord avec les cahiers du cinéma.
Oui, Jean-Luc.
Évidemment. Évidemment, genre.
Mais bon, y a pas de
cette sale race là qui défend Jean-Luc Godard. Bon, bah merci Kevin. Voilà, non, mais c'est bien aussi d'avoir un peu tous les points de vue. Et c'est vrai que nous aussi, on n'est pas forcément tous d'accord sur Avatar. Même si techniquement on l'est, mais scénaristiquement il y a encore des choses à voir. En tout cas, on vérifiera ça si ça se tient dans la durée, parce qu'il y a quand même encore 3 films derrière, hein, n'oublions pas, voire peut-être même plus, parce que la Poulouse d'Or ne sera pas prête d'être abattue pour Noël.
Il a dit qu'il voulait faire concurrencer Star Wars, genre une saga.
Là pour l'instant, oui,
tant que ça ne suit pas la même courbe de qualité,
tant qu'il réussit à se démarquer Disney, est-ce qu'il sera encore aux commandes sur les autres? Ça, c'est une vraie question que je me pose.
Bah, sachant que c'est un univers qui vient de lui, qui est dessiné par lui, qui est financé en partie par lui et dont la vision est complètement respectée, je le vois mal lâcher. En plus, le mec a l'air quand même assez maniaque sur son œuvre. Je le vois mal lâcher.
Il peut prendre un. Après, George Lucas, c'est toujours resté.
Mais
il
a lâché quasiment tout de suite, hein, après le premier film. Tu vois.
Non,
il est
mais
revenu après pour.
Il a lâché le film en lui-même, l'objet, oui. Mais oui. Il est resté derrière.
J'espère en tout cas qu'il a un bon médecin parce qu'il a quand même 70 ans le mec. Hein, donc voilà, qu'il termine vite sa saga au moins.
Mais il boit beaucoup d'eau, ce qui permet de vivre plus longtemps.
C'est vrai.
Voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas pour ce qu'il nous propose techniquement et pour ce qu'il nous propose en termes de spectacle au cinéma, voilà, moi je l'adore pour ça parce que vous le savez, hein, j'adore le cinéma spectacle et je le défends coûte que coûte, même si c'est difficile aujourd'hui avec les productions qu'on a. Ça reste une production... original,
de qualité.
C'est terrible de dire ça alors qu'en fait non, c'est juste une production qui date en fait comment ça se fait, c'est juste la manière dont ça se fait qui est différente. De qualité, faite avec beaucoup de passion, la 3D est très bonne, la qualité du film est très bonne et voilà. Et
il réussit au moins ça, là où la plupart des blockbusters se foirent là-dessus.
Voilà, et au moment où on vous parle, certainement que Titanic est ressorti déjà dans les salles. Au moment où on enregistre, non, mais Titanic va ressortir là le 8 février.
Et moi je vais y aller.
En 4K et en 3D. J'avais déjà vu la ressortie 3D parce que le film avait été supervisé par Cameron pour la 3D pendant un an avant sa ressortie au début des années 2010. Et c'était excellent. C'était une 3D excellente. Alors que le film est gonflé en 3D. Il n'avait pas été tourné en 3D à la base. Cette fois-ci, ce sera de la 4K 3D. Donc j'imagine que le film aussi sera qualitatif de ce côté-là technique, quoi. Donc voilà, non mais bref, Cameron, un génie du spectacle, et on en redemande quand même, mais peut-être travaille un peu l'écriture, quoi. C'est pas de la mauvaise écriture, mais il y a peut-être encore des efforts à faire. Et encore, on est tatillon parce qu'on n'arrive pas à sa cheville.
On est tatillon, mais c'est juste peut-être qu'il est arrivé à un stade de maîtrise dans ce type de monomythe où il est très fort, peut-être qu'il peut se challenger, voilà, c'est tout.
On surveillera le 3 au Pays de la Cendre. Hein, chez le peuple du feu, les gris. Apparemment, ça doit être des mecs qui clopent.
Et c'est ce que je pensais.
C'est ils clopent.
Et de la cendre, les cendriers.
Ils vont être différents, ça se trouve, ils ont pas de queue.
Salut les gars, salut Jake.
On verra comment ça se passe pour la famille Jake, Sully, Neytiri et compagnie.
Devront apprendre à fumer. Vous ne crapotez pas.
Tu aspires. Oh, le clac, fume plus.
Le clac, il va être ami avec un rocher paria. Allez, on va se dire au revoir sur cette bonne parole. Et on va vous dire ce combat retourne la semaine, la fois prochaine, parce qu'on sait plus où est-ce qu'on est dans le temps dans cette saison.
Mystery is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process.
Voilà, c'était le long match retour d'Avatar, mais c'est normal, hein, c'était proportionnel à sa durée aussi, hein. Une bonne heure et quelques de match retour pour 3 heures et quelques de film, je trouve ça plutôt proportionné. Alors, nous, la semaine prochaine, amis, nous allons... La semaine prochaine, on passe d'un génie à un autre puisque nous match retournerons. Et vous avez compris que je dis la semaine prochaine, c'est peut-être dans 2 ans en fait. Mais nous match retournerons prochainement un autre génie, un autre film qui a aussi beaucoup fait parler et qui lui aussi est présent aux Oscars de cette année 2023. Je parle de Steven Spielberg, je parle de Fablemans. Enfin bon, bref, Spielberg prochainement dans le match retour pour Fablemans. On vous dira ce qu'on en a pensé après cette Fée Sabéa, un épisode qui est sorti ou qui sortira, bref, qui est là sur le côté, cherché, vous trouverez.
Ça arrive notamment lourd.
Sur toutes les plateformes d'écoute, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, j'en passe d'autres aussi. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et on vous embrasse. À ciao, bonsoir.
Arrivederci.
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 Arrivederci.